Les enfants aiment bien l'épiphanie parce que c'est la récurrence de la galette. Avez-vous bien écouté ce texte? Avez-vous remarqué que les mages, sans magie, filent à l'anglaise? Et pourtant, ils ne partent pas en Angleterre, même si c'est la Saint-Édouard aujourd'hui. En ce premier dimanche de l'année du Jubilé, l'exemple donné par cet évangile pourrait paraître étrange à une personne non initiée par ce que signifie l'épiphanie, la manifestation du salut aux nations. Est-ce un contre-exemple que cet agir des mages adorateurs qui semblent fuir, voire manquer de courage, saisis par la difficulté du témoignage? D'aucuns y verraient un manque de probité vis-à-vis des promesses consenties. Feu Benoît XVI voyait dans leur passage à Bethléem trois réflexions qui nous les font mieux comprendre. Primo, le début d'une longue procession. Ces personnages venus d'Orient ne sont pas les derniers, mais les premiers de la grande procession de ceux qui, à travers toutes les époques de l'histoire, savent reconnaître le message de l'étoile, savent marcher sur les routes indiquées par l'Écriture sainte et savent ainsi trouver celui qui, en apparence, est faible et fragile, mais, en revanche, a le pouvoir de donner la joie la plus grande et la plus profonde au cœur de l'homme. À notre tour de processionner pour le Seigneur, la Vierge Marie, les saints du ciel, en ce jubilé 2025. Secondo, un acte de justice. Selon la mentalité qui régnait, dit Benoît XVI, à cette époque, en Orient, il représente la reconnaissance d'une personne comme Dieu et roi. Ils font donc un acte de soumission. Ils veulent dire qu'à partir de ce moment, les donateurs appartiennent au souverain et reconnaissent son autorité. À notre tour, frères et sœurs, par la vertu de religion, il convient de rendre en quelque sorte justice à Dieu. Nous acquitterons-nous de ce jubilé proposé? Tertio, leur changement de direction qui s'explique alors. Les mages, disait Benoît XVI, ne peuvent plus poursuivre leur route. Ils ne peuvent plus retourner chez Hérode. Ils ne peuvent plus être alliés avec ce souverain puissant et cruel. Ils ont été conduits pour toujours sur la route de l'enfant, celle qui leur fera négliger les grands et les puissants de ce monde et les conduira à celui qui nous attend parmi les pauvres, la route de l'amour qui seul peut transformer le monde. À notre tour, frères et sœurs, de nous détourner de toute compromission avec le monde. Il convient donc de s'arrêter sur ce troisième point. Les mages ont trouvé une autre route, sans doute plus coûteuse, par le sud, au-delà de leurs intérêts proches. La question évangélique se pose aujourd'hui. Un catholique peut-il revenir, retourner, mais comme en mystère, chez Hérode? L'enjeu à l'époque était grave pour les mages. La mort de nombreux innocents provoquée par jalousie allait être un terrible événement. Les mages pouvaient-ils le prévoir? N'auraient-ils pas pu tenter un subterfuge? Ils auraient pu dire à Hérode au retour de la grotte de Bethléem, en passant Bethléem, nous ne nous attendions à rien de cela, une telle pauvreté obscure, maintenant tout ébahi, nous rentrons chez nous. Hérode, certes, n'aurait pas été dupe en voyant leur joie surnaturelle, impossible à cacher. Le chrétien peut-il revenir en pensée chez Hérode? À la différence des mages, nous sommes directement conscients du mal moral actuel. Pour cela, pas besoin d'être averti par un songe ou un ange. Il existe en France la légalisation de péchés de plus en plus hostiles à la loi naturelle et évangélique, selon le mot du Concile Vatican II. Et même ces péchés que l'Écriture appelle abomination les péchés dits tovéot en hébreu, qui les commet acquiert la promesse divine d'être retranché du peuple, de la terre, de Dieu même. La responsabilité pèse sur tous. Tous responsables, disait Antoine de Saint-Exupéry dans Pilote de guerre. Et le grand Bossuet constatait que l'homme, par le péché des origines, était tombé de Dieu sur lui-même. Seul le secours divin peut nous sauver de nous-mêmes et nous ramener à lui par Jésus-Christ et son Église. Mais la question demeure, peut-on vouloir encore revenir en esprit chez Hérode ? Ce serait l'art du consensus, mielleux, doucereux, patelin. Devons-nous alors passer notre chemin au risque de voir la colère de ceux qui détiennent actuellement le pouvoir et qui exigent une certaine forme d'adulation ? Les critères de discernement ont été donnés depuis des années par Joseph Ratzinger quand il était à la doctrine de la foi. Note doctrinale concernant certaines questions sur l'engagement et le comportement des catholiques dans la vie politique du 24 novembre 2002, facile à retrouver sur vatican.va. Est engagé à travers ces lois éthiques l'avenir de bien des chrétiens dans leur attachement à Jésus le Christ. Saurons-nous offrir pour les générations montantes un mur, mieux un rempart incontournable contre cette dégradation morale, au-delà même de certains de nos intérêts pécuniaires? Ce n'est pas ici le lieu pour donner une réponse précise sur ce qu'il convient de faire, mais ce départ furtif des mages est l'occasion d'une réflexion au profond de notre âme. Est-on en conscience dans la possibilité de suspendre toute action en restant interloqué, pris par le doute qu'on n'a plus rien à faire en nous laissant auto-persuader de l'inefficacité de nos paroles et de toute entreprise contraire à l'ère du temps? Mais un de nos hommes qui ont donné une saveur au terroir écrit « Les raisons d'agir qui émanent du fond de l'être, qui veut survivre, doivent être plus forts que les raisons de douter qui ne se rapportent qu'aux supputations de la pensée. » Que les mages, illuminés par la vision de l'enfant Dieu, nous donnent la force de prier, de choisir et d'agir dans la lumière, celle de l'espérance définitive. Contre tout espoir dans l'espérance, contra spem in spem, disait saint Paul dans l'épître aux Romains. Amen.